Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est le 1er décembre, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles à propos aujourd'hui de l'allaitement. Alors l'allaitement, on le dit, l'une des choses, si ce n'est la chose la plus naturelle au monde, mais pas forcément, bien sûr, la chose la plus facile au monde, ça on le sait. Donc aujourd'hui, on va entendre un témoignage, celui de Christelle. Christelle qui est venue nous raconter ses difficultés pour allaiter, tout simplement. Christelle qui est maman de deux enfants, donc c'est très important son témoignage, parce que bien sûr, énormément de femmes connaissent ça, j'allais même dire énormément de couples connaissent ça, les difficultés, notamment pour la mise en place de l'allaitement, mais pas que. Donc merci à Christelle, et puis nous serons juste après avec une infirmière puéricultrice, Élise Chenel. C'est parti, on écoute Christelle.
Alors c'est sûr que beaucoup de jeunes mamans allaitaient son bébé au sein, bah c'est une évidence. Quand vient la naissance, certaines complications peuvent rendre l'allaitement difficile, voilà, voire impossible. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Christelle, vous êtes la maman de Maëlys qui a 2 ans et Loane qui a 9 semaines. Vous êtes drôlement en forme hein, quand même pour une Loane de 9 semaines. À la naissance de votre première fille, vous avez décidé de la nourrir au sein. C'était même vraiment quelque chose auquel vous teniez très très fort. Et puis le projet va tourner au cauchemar, mais vraiment au cauchemar, au point de mettre en péril la santé de votre fille. C'est important que vous témoigniez aujourd'hui, Christelle, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se font des grandes idées, qui fantasment beaucoup ce moment-là. Et je pense que peut-être le message, c'est de leur dire d'ores et déjà, attention, peut-être que ça ne va pas très bien se passer, et auquel cas, ce n'est pas grave, quoi. Et lâcher prise. Alors en 2019, Christelle, vous tombez enceinte de Maëlys. Donc, dès le début de la grossesse, vous avez le projet d'allaiter. Vous vous dites, ça c'est sûr, je lui donnerai le sein.
C'est ça, exactement. Parce qu'il a fallu du temps pour que je tombe enceinte. Donc, pour moi, je voulais vraiment mettre tout ce qu'il fallait pour que ma fille soit dans une parfaite santé derrière. Donc, je m'étais beaucoup renseignée. J'avais lu des livres, j'étais allée aux cours de préparation à l'accouchement, à la maternité. J'étais même allée à des cours de soutien organisés à l'hôpital de Trousseau sur l'allaitement par des femmes qui avaient allaité, des associations spécifiques. Je m'étais renseignée auprès d'amis qui avaient allaité. Voilà, je pensais avoir vraiment mis tout ce qu'il fallait de mon côté pour y arriver.
Alors, vous avez accouché en octobre 2019. D'ailleurs, ça s'est super bien passé. Comment s'est passée la première mise au sein? Alors, la tétée d'accueil.
C'est ça. Donc, ça s'est très bien passé puisque l'accouchement s'était bien passé. On avait mis ma fille sur mon ventre pendant 20 minutes. Et puis, d'elle-même, elle a en fait remonté, on va dire, mon ventre pour trouver mon sein. Et elle a tété. Donc, nickel, hein, exactement comme on peut le lire. Tout se passe bien. Sauf que dans les heures qui ont suivi, à force de la mettre à mon sein, j'ai rapidement eu des crevasses.
Quand j'ai appelé... Tout de suite.
Assez rapidement, allez, on va dire en 24 heures à peu près.
Oui.
Et puis, quand le personnel médical venait voir la mise au sein, pour eux, la mise au sein était bonne. Néanmoins, j'avais très mal. Ma fille pleurait régulièrement. Mais comme elle s'endormait assez rapidement au sein, ce que j'avais vu, c'est que comme elle s'endormait, c'est qu'elle avait mangé. Donc, je me disais, malgré la douleur, on continue, on y va.
Alors, vous avez eu des conseils et des recommandations un peu contradictoires à la maternité de certaines sages-femmes concernant l'allaitement. Donc, vous êtes rentrée chez vous un peu déboussolée, on vous comprend. Et à ce moment-là, votre montée de lait arrive enfin. Comment ça se passe?
Alors, c'était, je pensais très bien sur le moment, puisque la montée de lait arrive, ma fille continue à réclamer très souvent le sein. Donc, je me disais, c'est très bien, elle est en train de réguler ma poitrine comme il faut. Sauf que le lendemain matin, en me levant, j'avais les seins durs comme de la pierre. J'avais des frissons de partout, j'arrivais quasiment pas à me lever. Et la sage-femme qui est venue à domicile pour suivre mon retour à la maison, quand elle m'a vue en début d'après-midi, tout de suite, en fait, quand elle a vu mes seins, elle m'a dit, là, vous faites un engorgement, donc ça va pas du tout, il faut traiter ça au plus vite. Elle m'a donné des préconisations sur comment faire. Et en effet, dans les jours qui ont suivi, l'engorgement a disparu. Sauf que là, j'ai eu le revers de la médaille. Certes, j'avais plus d'engorgement, mais je n'avais plus assez de lait pour nourrir ma fille. Puisqu'en fait, quand elle exprimait le lait, j'avais que quelques gouttes qui sortaient. Donc moi, je me disais, c'est super, il y a du lait qui sort avec des gouttes. Et là, elle me dit, non, c'est des jets qu'il faudrait.
Donc là, vous vous dites, mais j'ai pas assez de lait pour ma fille. Comment vous avez vécu cette annonce-là?
Alors, j'étais un peu déconnectée à ce moment-là. J'étais encore dans un état un peu de fatigue, un peu extrême. Donc, je me dis juste, je vais prendre rendez-vous avec une conseillère en lactation, puisque je sais qu'à ma maternité, il y en a. J'ai eu de la chance. 2 jours après, j'avais rendez-vous avec une vraie spécialiste. Et de là, en fait, à peine je suis arrivée dans le cabinet de cette spécialiste, elle m'a juste regardée, elle a regardé ma fille, elle me dit, attendez, m'en dites pas plus. Vous venez ici parce que vous êtes épuisée, votre allaitement démarre mal. Mais là, votre fille, je peux vous le dire tout de suite, elle est en mode survie. Donc là, avec mon conjoint, on se regarde, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc là, elle nous explique qu'en fait, ma fille ne se réveille que pour manger le strict minimum, pour continuer à vivre, mais en fait, elle ne prend pas ce qu'il faut pour qu'elle puisse grandir correctement. Donc là, c'est une douche froide totale.
Donc là, la vie de votre fille était carrément en danger.
C'est ça.
Et en fait, vous qui vous disiez, oh, c'est un petit bébé tout calme et tout, c'est parce qu'elle était faible, en fait.
Exactement. Nous, on pensait vraiment que c'était juste un super bébé. Donc on se disait, en tant que jeune parent, trop bien. Et en fait, pas du tout. Donc... avec mon mari, on se dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, dites-nous.
Mais ça a dû être horrible pour vous d'apprendre ça.
Très dur.
C'est quand même... vous avez dit, je suis pas... Vous avez culpabilisé à ce moment-là?
Énormément. Énormément, parce qu'on s'est dit, mince, on a mis en danger la vie de notre enfant, en voulant bien faire en plus. Enfin, on s'est même dit, pourquoi est-ce que la sage-femme qui était venue à domicile et qui me suivait au quotidien ne m'a pas alertée, ne s'en est pas rendue compte non plus. Surtout qu'elle m'avait imposé un rythme de donner une tétée toutes les 3 heures pour que je puisse dormir. Et en fait, finalement, c'est ça qui a été aussi un peu délétère. La conseillère en lactation, là, m'a dit, écoutez, oubliez tout ce que vous avez pu avoir comme conseil. Là, on va penser à votre fille, avant tout. Donc, vous allez rentrer chez vous, vous allez acheter du lait infantile. Et vous allez la nourrir, votre fille. Et puis, on va mettre en place un programme pour relancer votre lactation. Mais ça, c'est presque secondaire, en fait. Là, c'est le bien-être de votre fille, d'abord.
Oui, c'est ça, c'est sa santé avant tout.
C'est ça.
Alors, vous avez suivi le protocole à la lettre pendant 10 jours. Et puis, au bout du compte, peu de résultats. Vous étiez ultra fatiguée, ce que vous nous avez dit en préparant cette émission, que vraiment, vous étiez à bout. Vous avez décidé de reprendre rendez-vous avec votre conseillère. Et puis, vraiment, ce sera impossible de la nourrir exclusivement au sein. Quoi.
C'est ça. Parce qu'en fait, ce que ma conseillère m'avait demandé, c'était que donc, je donnais le sein à ma fille dès qu'elle le demandait. Mmh. Et puis, il fallait qu'après la mise au sein, pendant que mon conjoint donnait le biberon à ma fille, il fallait que je tire mon lait pendant 20 minutes et qu'une heure après, je retire mon lait pour stimuler en permanence la lactation. Et il n'y avait que la nuit que j'avais le droit d'avoir un temps mort de 4 heures. Donc, en fait, je passais mon temps à tirer mon lait. Je ne profitais plus de ma fille. J'étais au bout du rouleau. Et donc, quand j'ai revu la conseillère en lactation, elle l'a vu déjà tout de suite à mon état. Et quand je lui ai expliqué combien j'arrivais à tirer mon lait au tire-lait, combien ma fille prenait en complément à côté, ma fille avait quasiment un mois à ce moment-là. Elle m'a dit, écoutez, là, vous avez plusieurs possibilités, mais une des options, c'est que là, votre fille, vous n'arriverez pas à la nourrir entièrement au sein. En tout cas, il faudrait suivre sinon ce protocole pendant encore 2 mois à peu près pour y arriver. Donc, 2 mois intenses. Et elle m'a dit, sinon, vous pouvez continuer des petites tétées de plaisir. On appelle ça, et compléter complètement avec du lait artificiel à côté. Mmh. Donc ça aussi, c'était assez épuisant. Et donc elle m'a dit, vous avez le choix, mais ne culpabilisez pas. Elle a vraiment eu des mots très rassurants qui m'ont aidée à me dire, peut-être que là, j'ai une porte de sortie pour arrêter d'allaiter, malgré le diktat qui dit, toutes les femmes peuvent allaiter, si vous n'y arrivez pas, vous êtes une mauvaise mère, vous ne mettez pas tout
ce
qu'il
faut. Vous avez l'impression de subir vraiment ces injonctions-là, à vous dire, je ne suis pas apte à être bonne mère si j'allaite pas mon enfant au sein?
C'est ce que j'avais une petite voix dans ma tête, oui, qui me le disait régulièrement, puisque c'est ce que je lisais partout. Même dans les livres de professionnels de santé qui vous aident normalement pour l'allaitement, vraiment tel que c'est écrit, on peut vraiment l'interpréter de cette manière. Et donc, j'étais vraiment à me dire, il faut que j'y arrive. Dans mon entourage, j'avais pas forcément des phrases culpabilisatrices. Ils étaient plutôt à me soutenir en disant, tu sais, si tu t'arrêtes, c'est pas grave, ça ira bien pour ta fille. Mais sur le moment, on le voit pas, en fait. Mmh. On se dit juste, oh, j'y arrive pas, c'est déjà un échec, alors que je suis à peine maman depuis un mois. Qu'est-ce que ça va être la suite?
Alors, vous avez arrêté totalement l'allaitement. Comment vous vous êtes sentie après? Alors... Parce que, sachant que vous étiez évidemment au bout du roule...
C'est ça. Je dirais que pendant 2-3 semaines, je culpabilisais énormément. Je pleurais régulièrement par rapport à ça.
Vous avez continué à culpabiliser après?
Oui, pendant 2-3 semaines. Et puis, en fait, avec le repos que j'ai pu avoir et que mon mari a pu avoir, on s'est rendu compte que finalement, ma fille allait extrêmement bien et même mieux. Elle devenait très souriante, même si c'était les petits sourires de spasme. Mais voilà, elle était plus souriante, elle dormait très bien, elle pleurait moins. C'était devenu vraiment un plaisir, en fait, d'être venue parent. Et là, on a réalisé une chose très importante, c'est que finalement, peu importe la manière dont on pouvait la nourrir, ce qu'il lui fallait, c'était des parents reposés et disponibles. Et donc, c'est ce qu'on s'est avéré de faire par la suite. Enfin, vraiment, on a mis tout notre possible pour être... toujours là pour elle, peu importe les dictats de « faut faire ci, faut faire ça » pour être des bons parents.
C'est très important ce que vous dites là. Peu importe les dictats, peu importe les injonctions, s'écouter, regarder son enfant comme vous l'avez fait et s'adapter aussi à ses besoins et puis aux difficultés qu'on peut rencontrer qui sont pas de notre faute, quoi. Alors l'année dernière, vous êtes tombée enceinte de Louane. L'accouchement s'est très très bien passé. Vous êtes dit « bon allez, quand même, je vais retenter l'expérience de l'allaitement ». Première mise au sein, ça se passe très bien. Et puis la nuit qui a suivi, encore une fois, alors là, vous avez failli abandonner. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ça. En fait, j'étais épuisée. Mon mari ne pouvait pas rester avec moi à la maternité puisqu'il y avait mon aîné dont il fallait s'occuper. Donc, il est rentré à la maison. Et là, j'étais fatiguée. Donc, j'ai appelé l'auxiliaire de puériculture qui était de garde ce soir-là. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, écoutez, je ne m'étais pas posé la question, mais qu'est-ce qui se passe si je vous dis là, j'arrête d'allaiter? Est-ce qu'il faut que je ramène un biberon? Est-ce qu'il faut que je ramène du lait? Est-ce que vous avez des choses? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, signer un protocole? En fait, j'en savais rien. Et là, elle a été extraordinaire. Je pense que d'ailleurs, elle a sauvé mon allaitement parce qu'elle s'est posée avec moi. Elle s'est assise, elle m'a dit, écoutez, si vous voulez arrêter d'allaiter, on a des biberons, on vous amène ce qu'il faut, mais vous pouvez aussi juste lui donner un petit biberon qui vous permettra de dormir peut-être 2 heures, 3 heures, et après vous pourrez reprendre l'allaitement, c'est pas pour autant que ce sera un échec. Et puis si par la suite vous voulez finalement de nouveau en redonner, on vous amènera. Mais en fait, elle m'a amené ça avec tellement de zénitude, on va dire, et puis sans porter de jugement, bah, c'est ce qu'il m'a fallu. Et puis quand elle a donner un biberon à ma fille, je me suis dit, là, j'ai en effet besoin de dormir, donc allez-y, donnez-lui un biberon. J'ai vu à quel point ma fille le refusait, ce biberon. Pourtant, elle le donnait très bien, comme on conseille, redressée, en petite douceur et tout. Mais en fait, ma fille avait un rejet de cette tétine. Et là, je me suis dit, OK, pour elle, il faut que je me batte, parce qu'elle veut vraiment mon sein. Et ben voilà, je vais essayer. Je vais essayer.
Et ça a marché.
Ça a marché.
Vous l'allaitez encore, là ?
Je l'allaite encore. Alors, il y a encore des hauts et des bas. Pourtant, elle a, bah, comme vous le dites, 9 semaines. Hein. Donc, il faut encore des fois que je restimule parce que je n'ai pas forcément ce qu'il faut. Mais ça fonctionne. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais allaiter. Peut-être que dans une semaine ou 15 jours, je dirais, bah, j'en ai marre, j'arrête. Peut-être que dans 6 mois, vous me verrez encore allaiter. Mais voilà, j'y vais vraiment avec plus de recul. Et puis
et de lâcher prise aussi.
Et de lâcher prise. Et je pense que c'est très important parce que même en tant que parent, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit avec mon aîné. Quand les gens nous croisaient, ils étaient assez impressionnés de voir à quel point je pouvais être zen face à son attitude au quotidien et à me dire, mais vous avez déjà des enfants avant pour avoir autant de recul, et à dire, non, c'est mon aîné. Mais en fait, je sais que quoi qu'il arrive, elle grandira. Moi, tout ce qu'il faut, c'est que je fasse en sorte qu'elle ne soit pas en danger et qu'elle aille bien. Après, le reste, c'est la nature qui fait. Enfin...
Bonjour Élise Chenel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes infirmière puéricultrice à l'hôpital Robert Debré à Paris et vous êtes spécialiste de l'allaitement. Alors, moi, ce qui m'a le plus frappée dans le témoignage de Christelle, c'est que, en fait, bah, comment est-ce qu'on se rend compte que le bébé ne tète pas assez ? Parce qu'on voit bien, elle se disait, oh là là, on a un bébé hyper cool, elle dort, elle est trop mignonne. En fait, elle ne dormait pas, elle avait tellement peu de force. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si notre bébé est assez nourri ?
Alors, c'est vrai que dans les premiers jours, c'est assez difficile parce qu'un nouveau-né, il dort beaucoup et il n'y a pas beaucoup de phases d'éveil où on peut se dire, bah là, il a bien mangé et ensuite, il va s'endormir tranquillement. Il y a des signes assez cliniques qui peuvent rassurer les jeunes parents. Un enfant qui mange bien pour le début, c'est un enfant qui mouille ses couches régulièrement, ça veut dire au moins 6 à 8 couches d'urine par jour.
Donc ça, il faut faire très attention à ça, il voilà. Faut compter.
Faut noter compter. Dans un alors petit après, carnet. Oui, éventuellement, si vous avez besoin d'un petit carnet, mais ça veut dire aussi que, bah, voilà, par exemple, avant chaque tétée, eh bien, je change mon bébé, ou après, ça dépend des enfants, et à chaque fois, il a fait pipi. Et du coup, ça, c'est quand même un bon signe. C'est aussi des enfants qui ont un transit régulier. Alors après, chaque enfant est un peu différent. Il y a des enfants qui ont des selles après chaque tétée et d'autres un petit peu moins. Et puis, au fur et à mesure, elle le décrivait assez bien, Christelle, c'est aussi des sensations de la maman. Par exemple, d'avoir, après la tétée, les seins, une sensation de seins vides, alors qu'avant la tétée, ça avait plutôt une sensation d'avoir les seins pleins. Et ça, c'est quelque chose qui montre que l'allaitement se met tranquille bien en place, cette sensation, le sein vide, après la tétée, le sein plein, voilà. Après, les gros signes de déshydratation, c'est un petit peu plus difficile à voir, et c'est vrai que je ne suis pas médecin, mais c'est vrai qu'un enfant qui dort beaucoup, beaucoup, qui devient un peu pâle, qui se creuse un petit peu du visage, ça peut être un petit peu inquiétant, et du coup, il ne faut pas hésiter à se tourner vers un pédiatre ou alors à l'extérieur, vers les centres de PMI qui peuvent vous accompagner pour les débuts d'un allaitement difficile.
Géraldine vous demande quels sont les facteurs physiologiques qui peuvent mettre en échec l'allaitement.
Alors, j'entendais aussi tout à l'heure, c'est vrai qu'on dit que toutes les femmes peuvent allaiter. Physiologiquement, on est dans notre corps toute faite, en théorie, pour le faire. Il y a très peu de femmes qui ont ce qu'on appelle une insuffisance de lait primaire, ça veut dire la glande mammaire n'existe pas dans leur corps et du coup, bah, elles ne peuvent pas faire du lait parce qu'elles n'ont pas physiologiquement ce qu'il faut faire. Ensuite, donc, on est toutes faites en théorie pour faire du lait, mais il faut physiologiquement mettre en place ce processus qui est hormonal. Et du coup, pour le mettre en place, il faut qu'il y ait une stimulation, qu'il soit par le bébé ou par un tire-lait quand les mamans ne peuvent pas mettre leur bébé au sein. En théorie, en effet, physiologiquement, on peut presque tout allaiter. Après, c'est pas si simple.
Non.
Parce qu'il faut que la stimulation, elle soit régulière. Il faut mettre son bébé régulièrement au sein ou utiliser très régulièrement le tire-lait, surtout dans le premier mois. Le premier mois du début de vie d'un nouveau-né ou d'un bébé, c'est assez charnière pour l'allaitement parce qu'il faut que le corps des mamans s'imprègne au fur et à mesure de ces hormones qui permettent de faire le lait. Et c'est un processus qui, pour certaines, en deux jours, elles ont la montée de lait, ça coule en jet et on peut nourrir 2 ou 3 enfants. Et puis, bah, y en a d'autres pour qui c'est plus poussif. Mais au fur et à mesure, tranquillement, on y arrive. Et parfois, on peut aussi avoir besoin d'être aidé par 1 ou 2 biberons de lait artificiel par jour sans que ce soit...
Un drame.
Voilà,
c'est bien de le dire. C'est ça. Alors, donc, le mot-clé, les 3 premiers mois, stimulation.
Le premier mois, voilà, le plus possible qu'il y ait des tétés. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut alimenter son bébé à la demande.
D'accord. Et donc, l'allaitement mixte, dès le départ, ce n'est pas un problème?
Alors, si vous faites un allaitement mixte à 2 jours de vie, ça peut être un petit problème parce que souvent, quand on donne un biberon de lait artificiel à un bébé, un nouveau-né, après, il va dormir pendant 6 heures. Parce que bah, peut-être qu'il va boire les 70 ml du petit biberon, alors que la maman, dans les seins, elle n'a pas 70 ml. Donc lui, il va être repu, il va dormir pendant 6 heures, voire des fois un peu plus. Et du coup, des fois, ces 6 heures, eh ben, les mamans, elles sont là, moi, j'ai les seins qui gonflent et ça fait mal et je ne sais pas comment faire. Donc ça fait sauter des tétés. Ouais, c'est plus ça qui est un petit peu embêtant. Après, si l'enfant, il tète 10 fois dans la journée et qu'il a un biberon de lait artificiel, voilà, encore une fois, c'est pas un drame si ça permet de rassurer les parents sur le fait qu'ils mangent ou alors de faire lâcher un petit peu la pression. Il n'y a aucun problème.
Alors, Sophia, justement, vous dit, j'allais dire, Sophia, une question sur l'allaitement. Bah oui, en fait, c'est le sujet du jour, bien sûr. Alors, je reprends le travail dans un mois. Mon bébé n'aura que 2 mois et demi. J'ai très peur que ça rende difficile mon allaitement. Que me conseillez-vous? C'est vrai que la reprise du travail, c'est toujours... Ouais.
C'est toujours une période charnière assez stressante pour les mamans, à raison. Hein. Alors... Soit elle réussit à introduire un biberon ou 2 par jour pendant, souvent on conseille pendant 2-3 semaines avant la reprise du travail. Mm-hmm. Si elle peut, elle tire son lait en parallèle pour donner du lait de maman à son bébé. Si c'est trop difficile, parce que dans l'organisation familiale, il faut aussi trouver le temps de tirer son lait, eh bien elle peut introduire en l'accord avec l'accord du pédiatre un lait infantile. Et ensuite... Ça dépend un petit peu du travail que va faire cette maman. Si elle peut donner la tétée du soir, la tétée du matin, la tétée du soir et toutes les tétées de la nuit si l'enfant dort pas trop la nuit, et tirer au moins 1 à 2 fois par jour, c'est vraiment l'idéal. Après, si ça c'est compliqué, ben, c'est sûr que le fait qu'il y ait moins de stimulation, ça peut faire que l'allaitement a un peu plus de mal à perdurer.
Et si on a une difficulté, on a de toute façon la PMI, hein, peut-être, oui. On peut le dire, aux jeunes parents qui nous regardent, il y a toujours une PMI près de chez soi.
Exactement, dans tous les quartiers et parisiens et de province, il y a des centres de protection maternelle et infantile.
Qui sont des havres de paix.
Exactement, hein, avec des professionnels des hyper formés qui peuvent vous accompagner et qui peuvent aussi être à l'écoute de votre besoin ce jour-là, qui peut être différent du besoin dans la semaine qui suit. Et voilà. C'est aussi un bon endroit pour faire peser son bébé et voir s'il grossit bien.
Clarisse vous pose une question qui est importante. Est-ce qu'il y a des raisons psychologiques qui peuvent expliquer l'échec de l'allaitement? C'est même, j'imagine, fréquemment le cas, non?
Oui, c'est vrai qu'il y a toute cette part physiologique, mais la psychologie intervient beaucoup. Quand on est angoissé, quand on est stressé, forcément, on fait moins bien les choses, on a plus peur de mal les faire, justement. Donc, en effet, quand psychologiquement, on n'est pas très en forme, ça peut avoir des retentissements sur la quantité de lait qu'on peut éventuellement produire pour son bébé. Après, c'est facile de dire « détendez-vous et tout va bien se passer ». On est d'accord que...
C'est la pire phrase à entendre.
Voilà. C'est comme quand on vous dit « quoi, t'as des insomnies, mais dors !»
Ah oui, oui.
J'ai pas pensé.
Vous voulez que je vous dise, moi, j'ai la circoncision de mon fils. Ça m'a tellement choquée à 10 jours après la naissance que je n'ai plus jamais eu de lait.
Vous n'avez plus jamais quoi?
De lait.
Ah,
ça
c'est
a
vrai
coupé le lait.
Ouais. Ça a été un choc et donc...
C'était dur quand même à vivre. Et voilà.
Donc la preuve, il y a une vraie influence.
Il y a une vraie influence du psychisme. Et puis il y a aussi, par exemple, quand les mamans, au début, elles ont des douleurs, parce que quand on vient d'accoucher, on est fatigué, on a mal, pas forcément que au sein, mais on peut aussi avoir mal au sein. On ne dort pas, on vous dit, mais dors, quand ton bébé dort, c'est facile.
Oui, on a d'autres affaires, genre des machines.
Exactement. Donc tout ça, ça intervient dans un contexte qui peut être de fragilité. Et du coup, quand on est un petit peu plus fragile, forcément, psychologiquement, on peut être aussi un peu plus fragile. Et ça peut avoir des impacts sur l'allaitement. Et en effet... quand il arrive des choses qui sont très marquantes, c'est ce que vous décriviez, ça peut complètement couper les choses. Donc Voilà, on essaye de se tourner aussi vers des gens qui sont bienveillants et qui nous accompagnent tranquillement, que ce soit de la famille ou des professionnels de santé. Et puis, puis si on a besoin, on peut aussi aller parler avec quelqu'un qui nous écoute, qui est là pour ça, psychologiquement parlant.
Alors Jennifer vous demande si les tisanes d'allaitement sont vraiment efficaces ou si ça change rien.
C'est sûrement que ça marche, mais je pense que c'est aussi un petit peu placebo. Mais d'un autre côté, si vous y croyez, eh ben, moi, je suis sûre que ça fonctionne. Donc,
bah, si on vous avez dit ça, on n'y croit plus. C'est marrant.
D'accord, ok. Mais bah, voilà, si on croit que ça va nous aider et si en plus on trouve que le goût est bon et que ça favorise le fait que les mamans, elles, boivent de l'eau, eh bien, allons-y.
Mais il n'y a pas de plante qui favoriserait la
lactation. Alors, si on dit que le fenugrec favorise la lactation, mais encore une fois,
le fenugrec,
c'est... Enfin, voilà, c'est... dans la fenouille, il y a du fenugrec.
Enfin, vous parlez bien un petit peu ce
Et du coup, ça favoriserait la production par le corps de prolactine, qui est l'hormone qui permet de faire le lait. Mais voilà, c'est des plantes et du coup, il y a des gens qui y croient et d'autres un petit peu moins. Mais
il y a une génération ou deux, on ne recommandait pas de boire de la bière.
Si, parce que on dit que la bière sans alcool, on est d'accord, c'est la levure de bière qui aussi a des vertus d'augmenter le taux de prolactine qui permet de faire un petit peu plus de lait.
Or, on va rappeler qu'il est totalement non recommandé de boire de la bière. Ou alors de la bière sans alcool.
La bière sans alcool, ouais.
Ça doit être délicieux, possible. La bière sans alcool.
J'ai jamais goûté.
Moi, j'ai goûté. Non, c'est pas
si mauvais. Ça va. Bref, Isidorita nous envoie « Bonjour, c'est la première fois que je pose une question à la maison des maternelles, donc je panique. » Je comprends qu'elle panique, mais la première fois, c'est toujours...
je voudrais que surtout que Benjamin n'est pas très, très...
Non. Je voudrais que mon futur enfant prenne mon lait, mais en tirant mon lait exclusivement. Où peut-on être accompagné là-dedans?
Alors, je dis souvent qu'il y a plusieurs manières d'allaiter son bébé, et c'est une très bonne question. Un allaitement, ce n'est pas forcément qu'un allaitement au sein. On a vraiment cette image de la femme qui allaite son nouveau-né au sein, alors qu'il y a, il y a beaucoup de mamans qui allaitent de façon différente. Et tirer exclusivement son lait, c'est également possible. Moi, j'accompagne tous les jours des mamans qui tirent leur lait dans un service de réanimation néonatale. Donc, et il y a des allaitements qui fonctionnent très, très bien. C'est sûr qu'elle va sûrement avoir des interlocuteurs qui s'y connaissent un petit peu moins. Donc, il faut éventuellement qu'elle se tourne vers une conseillère en lactation qui peut surtout lui montrer comment fonctionne un tire-lait. Et avec des bons conseils, ça veut dire... parce qu'un tire-lait, c'est une machine, et du coup, quand on ne sait pas utiliser la machine, ce n'est pas forcément simple. Mmh. Pour optimiser sa lactation et faire en sorte qu'elle n'ait pas mal et qu'elle ne tire pas trop fort, parce qu'il y a des mamans qui tout de suite mettent très très fort en se disant « ça va marcher comme ça très très vite », alors qu'en fait, voilà, ça fait plus mal qu'autre chose. Mmh. Donc éventuellement, soit la PMI, soit vers une conseillère en lactation qui peut l'aider sur comment fonctionne le tire-lait, et aussi le rythme à avoir, parce que du coup, ça veut dire qu'il faut et qu'elle tire son lait, et ensuite qu'elle donne son lait au biberon. Donc c'est, en termes d'organisation, voilà, c'est une organisation qui est particulière, à savoir que le lait maternel, ça se conserve au frigo pendant au moins 48 heures, et que ça se conserve également au congélateur pendant 4 mois.
Ah, quand même, hein ?
Oui, donc du coup, ça permet de faire du stock et de ne pas trop se stresser sur la quantité de lait.
Alors, Coulet vous demande « Je suis la maman de Amani, 18 mois, je l'allaite depuis sa naissance. Actuellement, je suis enceinte de 6 mois. J'aimerais donc sevrer Amani avant la naissance, mais par où commencer ?»
C'est la grande question, surtout que s'il sait que sa maman est enceinte, il va dire « Oh là là, est-ce que c'est pas pour donner le lait à l'autre bébé ?» Enfin,
ça va être compliqué d'en allaiter deux en même temps.
Oui, c'est sûr que, par contre, physiologiquement, le lait, il va reprendre ses propriétés d'aliments pour nourrir un nouveau-né. Donc, c'est possible que le plus grand se dise « Ah tiens, ça a un goût un peu plus bizarre » ou « C'est pas comme avant ». Donc, si elle veut le sevrer, le chemin qui peut être plus ou moins long, ça dépend des enfants, ça dépend aussi des mamans, parce qu'il y en a qui veulent sevrer leur bébé, mais qui finalement ne sont pas forcément trop prête psychologiquement à arrêter. Le mieux, c'est d'introduire au fur et à mesure des alimentations autres que par le lait. Après, il a 18 mois, ça veut dire que c'est un enfant qui mange déjà diversifié, qui sûrement le midi ne boit pas le sein. Ou alors, donc il faut trouver des petits rituels pour faire en sorte que peut-être donner un yaourt à la place de la tétée, garder les tétées qui sont le plus important pour ce petit garçon. Souvent, c'est pour les endormir et c'est celles-ci qui sont... Donc garder celles-ci en dernier, essayer d'enlever toutes les autres. Et après, essayer de trouver des rituels d'endormissement qui sont différents de la tétée. Et ça, c'est pas très simple.
Est-ce qu'on peut revenir sur la congélation du lait ?
Oui.
Comment on le décongèle ? Est-ce qu'on peut faire un peu la congélation, décongélation pour les nuls ? Comment on le décongèle ? Est-ce qu'on le laisse décongeler naturellement ? Comment on le chauffe aussi le lait pour pas qu'il perde toutes ses vertus ?
Alors, comment on le décongèle ? Ça dépend un petit peu de votre organisation. Si vous savez que pour le lendemain, vous avez besoin de tant de biberons, le mieux, c'est de les mettre au frigo et de les laisser décongeler toute la nuit. Si c'est en mode rush, mince, j'ai oublié, vous le sortez du congélateur et vous le mettez dehors. Et si c'est vraiment très, très, très urgent, vous pouvez le mettre au bain-marie, mais il ne faut pas le mettre dans l'eau qui boue. Voilà, parce qu'en effet, il faut que ça se décongèle tranquillement. Après, il n'y a pas vraiment de règle de température à la maison. Ce n'est pas possible de le faire. À l'hôpital, on le fait, mais pas à la maison. Donc, voilà. Le mieux, c'est au frigo ou sinon à l'air libre qui décongèle. Et pour le faire chauffer, l'idéal, c'est vraiment de faire chauffer le lait maternel au bain-marie, de le faire réchauffer dans de l'eau chaude.
Mais pas de micro-ondes.
Pas de micro-ondes. En fait, le micro-ondes, oui, ça abîme aussi les propriétés, mais le risque, mais c'est aussi vrai pour les biberons de lait artificiel, c'est que le micro-ondes, ça concentre la chaleur dans le centre du biberon. Du coup, quand vous sortez le biberon, vous le touchez, vous avez l'impression qu'il n'est pas si chaud, vous le mélangez, et en fait, à l'intérieur, c'était très, très chaud, et du coup, ça peut éventuellement brûler. Ouais,
toujours la petite goutte.
C'est ça. Bien le mélanger, et puis tester la goutte de la température.
Sonia vous dit, depuis quelques jours, ma fille de 1 mois, bébé RCIU, ne semble plus vouloir lâcher mon sein la nuit, notamment, je suis épuisée. Pourquoi et que faire ? Donc RCIU, c'est ?
RCIU, ça veut dire que c'est un bébé qui a eu un retard de croissance intra-utérin,
okay,
qui n'a pas bien grandi dans l'utérus de sa maman. Mm-hmm. Alors, il y a toujours des phases dans l'allaitement où les enfants tètent plus ou tètent un petit peu moins. Et du coup, les mamans, elles ont souvent l'impression que s'ils tètent plus, c'est sûrement que j'ai plus assez de lait et s'inquiètent de la quantité de lait qui est pour elles insatisfaisante. Alors, faut aussi c'est pas forcément ça. C'est pas parce que son bébé tète plus qu'elle a des problèmes de lait ou de quantité de lait. C'est aussi souvent concomitant avec le fait qu'à un mois, les enfants, ils se réveillent un petit peu plus. Ils découvrent davantage et du coup, ils ont un peu besoin, le soir particulièrement, de se rapprocher vers ce qui les rassure parce qu'ils ont appris plein de choses dans la journée. Même si on a eu l'impression qu'ils ont eu des phases d'éveil assez courtes, mais si cette phase d'éveil, ça a été regarder ce qui se passe, voir les gens autour, eh bien, le soir, ils ont souvent besoin d'être un peu réassurés ou éventuellement la nuit. Et du coup, ça entraîne des phases, des fois des 2-3 heures, des nuits entières où le bébé a un besoin un peu effréné de téter. Il faut essayer de laisser passer cette phase. Et puis,
Donc là, il faut supporter, quoi.
Malheureusement, un petit peu.
Ismaël nous dit bonjour. Ma fille de 4 mois s'endort au sein. Comment changer cette habitude ?
Alors, ça dépend quel est l'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est de la réveiller pour qu'elle tète plus ? Ou est-ce que c'est... Alors, si c'est la réveiller pour qu'elle tète davantage, par exemple, on conseille des fois aux parents de... le bébé se réveille, montre des signes d'éveil, on le met au sein, au premier sein. Et si on a, parce que l'enfant a besoin pour les quantités de manger au deuxième sein, on le change entre les deux seins. Comme ça, ça le réveille un petit peu. Le fait de le mettre un peu tout nu, souvent, ça les réveille. C'est pas forcément quelque chose de très agréable. Et ensuite, on le remet au deuxième sein. Donc, si c'est pour qu'il mange plus, voilà un petit peu la technique qu'on peut proposer aux familles. Si c'est j'aimerais qu'il ne s'endorme pas à mon sein pour que je ne... Enfin, que je sois plus un peu... Des fois, les mamans, elles se disent, mais du coup, il faut absolument que je sois là quand
le doudou, quoi, voilà.
Là, je ne suis pas la spécialiste du sommeil, mais l'objectif, ça serait essayer de trouver peut-être un petit une petite parade pour que ce soit plutôt quelqu'un d'autre qui aille coucher l'enfant et faire en sorte que la tétée soit plus synonyme de sommeil pour ce bébé, d'endormissement en tout cas. Mais c'est encore une fois plus facile à dire qu'à faire.
Ça. Cassandre vous dit, quel est votre avis sur les risques de confusion lorsqu'on donne des biberons lors de l'allaitement ?
Alors, il n'y a aucune étude scientifique qui dit que c'est parce qu'on donne un biberon à un bébé qu'ensuite il ne boira plus le sein. Après, la vraie vie, elle est un petit peu différente. J'accompagne tous les jours des mamans qui ne sont pas toujours là 24 heures sur 24 à l'hôpital. Et il y a un moment où, pour que l'enfant mange, on est obligé de leur donner des biberons. Quand les enfants sont plus grands, enfin grands dans le sens, quand ils sont à terme, il n'y a pas un risque majeur à donner des biberons pour ce qu'on appelle la confusion sein-tétine. Après, moi, j'en suis convaincue, vous lirez sûrement d'autres avis sur les réseaux sociaux, mais donc, je ne suis pas sûre que ça existe vraiment. Après, c'est aussi la manière dont on l'amène. C'est sûr que si on se dit, oh là là, je vais lui donner un biberon, il ne pourra plus jamais au sein, et qu'on s'en convainc, moi, je suis assez sûre qu'en effet, après, on se convainc que ça ne va pas marcher. Mais si on se dit, écoutez, voilà, je suis obligée à ce moment-là de donner un biberon à mon bébé, ou deux ou trois par jour, eh bien, c'est pas pour ça qu'il boira pas au sein, et souvent, ça marche.
Merci Élise Chenel, infirmière puéricultrice, d'être venue nous voir dans la maison des maternelles. Merci infiniment à Christelle, en espérant que cet épisode aura aidé et inspiré de nombreuses mamans, de nombreuses futures mamans, des papas, des tontons, des tatas, des grands-parents, des enfants, bref, tout le monde. Voilà, je m'enflamme un peu. Je vous souhaite quoi ? Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas, vous venez me voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram, si vous avez des idées de thèmes que vous souhaitez me suggérer. Vraiment, n'hésitez pas, on est preneurs. Demain, dans l'émission, on parle d'un sujet que j'adore. Pourquoi je l'adore, je sais pas. Peut-être qu'on est nombreux à être concernés, je ne sais pas. Mon enfant est un tyran, voilà, on l'a intitulé comme ça. Je sais que ça fait réagir quand on dit mon enfant est un tyran, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Au moins quand on dit tyran, on voit de quoi on parle. Bref, demain on parle de ça. Si vous n'aimez pas l'expression tyran, dites-vous juste qu'on parle de mon enfant qui est un peu chiant, quoi. Certains diraient casse-couille, mais non, ça le fait pas. Et voilà, mon enfant est un peu relou. Bref, mon enfant est un tyran. C'est demain, 9h30, France 2, ciao.